Parole d'auteur. Parole d'auteur, Bellita de Bangy.
Les mots du regard, 17 portraits d'auteurs de Charles de Roda, aux éditions Fraction à Albi. À travers ce très beau livre, qui parle essentiellement des perceptions de l'enfance, Charles de Roda nous parle des sensations brisées, des sensations jamais partagées, des sensations tues, des sensations perdues de l'enfance. À travers 17 auteurs que Charles de Roda appellera des passeurs, l'auteur nous explique comment il a pu ne pas sombrer dans le néant et surtout se construire. Toutes traitées de façon très originale, ce livre montre le portrait peint par l'auteur, qui est aussi un artiste, et le portrait moral de ses différents passeurs. Une méthode originale, une nouvelle façon de faire vivre ses écrivains engagés. Nous allons partir à la découverte de Charles de Roda dans ce livre. Bonjour Charles de Roda, merci de venir à Radio Présence nous présenter votre livre. Je vais vous présenter en quelques mots. Vous êtes écrivain, artiste, sculpteur, homme de lettres. Ce livre est un magnifique cadeau que vous offrez au lecteur, car c'est un mélange de réflexion, de philosophie et d'art. 17 tableaux représentent vos auteurs passeurs. Si ce terme de passeur, il est souvent employé aussi par de grands auteurs, soucieux de rendre hommage aux écrivains qui les ont aidés à se construire. Vous n'êtes donc pas le seul dans ce cas. Maintenant, à vous, Charles de Roda.
Bonjour. Ce livre est un livre sur mes passeurs, bien sûr. Il faut peut-être rappeler un petit peu le contexte. Une ville du sud du Massif central, dans les années 50, était une ville assez austère. Pensions successives, manières dont on élevait à l'époque les enfants, c'est-à-dire surtout dans un silence, époque où on ne parlait pas aux enfants, et l'enfant, dans ce silence qui était ambivalent, il était évidemment laissé à lui-même, mais il se parlait à lui-même, et se parler à soi-même était quelque chose qui commençait à fonder aussi un chemin, une réflexion. Mais il a fallu que se parler à soi-même soit audible par d'autres et soit communicable. Et il ne l'a pas été par des interlocuteurs qui étaient face à moi, mais il l'a été par la découverte petit à petit des auteurs qui m'ont permis de rentrer dans un dialogue où, en tout cas, ce parler intérieur à moi-même avait un écho chez ces auteurs que je lisais. Et je constatais en les lisant que je pouvais dire à certains moments, moi aussi, et que je pensais que ce que je me disais à l'intérieur pouvait être audible par ces auteurs de mes rencontres.
Alors, dans votre livre, vous citez 17 grands auteurs de l'Académie française, prix Nobel, étrangers. Je ne vais en citer que quelques-uns, Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar, je ne vais pas tous les citer, William Faulkner, James Baldwin, pour laisser après au lecteur le bonheur et le plaisir de découvrir qui ont été vos passeurs, vos maîtres à penser, vos constructeurs, vos bâtisseurs. Je voudrais vous poser une question. J'ai vu en faisant des recherches que, bien sûr, vous n'étiez pas le seul à avoir été aidé par des grands auteurs. On parle aussi de corpus littéraire ou de corpus de textes, un ensemble de textes ayant une vision commune, les perceptions de l'enfance, et ces perceptions de l'enfance qui n'ont pas démoli, mais qui vous ont construit et qui vous ont permis aujourd'hui d'être un écrivain et un artiste et un homme de lettres. La première question que je voudrais vous poser, c'est tous ces auteurs que vous avez rencontrés à travers la lecture, comblent-ils le besoin de consolation ?
Alors, certainement, notre besoin de consolation est impossible à rassasier, comme dit le poète, mais je pense que un enfant ou un adolescent, et nous étions à l'époque de ma jeunesse des adolescents prolongés très, très longtemps, un enfant ne connaît au fond rien des êtres, hein, rien de ce qui est important de connaître des êtres. Et la lecture m'a permis de cette connaissance des êtres. Et on pouvait vérifier ce qui était important pour la direction d'une vie, pour l'ouverture. On pouvait vérifier l'importance à ce qu'elle était tue du côté des éducateurs et du côté des parents. Et eux ont ouvert le dialogue. Je prendrai un exemple. Par exemple, très tôt, François Mauriac, dans l'adolescence, est arrivé. Et François Mauriac, dans plusieurs de ses écrits, dit qu'il était traité par ses parents de 10 heures de rien. Hein, c'est-à-dire que la parole enfantine ou la parole d'enfance réduite à rien, n'était pas écoutée. Et par là, je me suis rendu compte que j'étais pas seul, surtout. Au fond, la grande découverte, c'est que je n'étais pas seul, et c'était aussi que je pouvais avoir des sentiments, des idées, et surtout, peut-être à cette époque-là, c'était plutôt des perceptions communes avec tous ces êtres qui, eux, étaient des gens reconnus, des gens intelligents, des gens qui avaient pignon sur rue.
Oui, mais vous n'étiez qu'un enfant, et il y a beaucoup d'enfants qui ne se seraient pas posé toutes ces questions, qui auraient préféré continuer à subir une vie d'insouciance un peu bécassine, et vous, finalement, vous avez très tôt réfléchi à ce qui vous arrivait. Parce que vous n'étiez pas le seul dans ce cas à votre époque.
J'étais pas le seul, mais au sein de la fratrie et au sein de mes camarades, la parole ne circulait pas sur cette essentielle-là. Et ce qui est au fond, si j'ai tendu la main, si j'ai appelé au secours tous ces gens-là, c'était aussi parce que j'étais très pris par l'intensité des sensations de l'enfance qui s'imposaient, et je me disais, mais comment les autres n'en parlent jamais, comment ce qui me paraissait complètement essentiel n'est jamais nommé. Je crois que j'étais un enfant auquel on ne parlait pas, et qui percevait d'autant plus les choses avec une intensité. Vous savez, le maître mot, c'est l'intensité de l'enfance. C'est l'intensité des perceptions de l'enfance tellement puissante que j'en vivais, hein, j'en vivais complètement. Alors, j'occultais beaucoup de choses, et quand, par exemple, quand j'ai été à 8 ans flanqué en portion pendant 3 ans, c'est quand même ces sensations qui m'ont sauvé, c'est-à-dire la nature, les grandes promenades, le parc du pensionnat, les saisons qui défilaient, toutes choses qui peuvent paraître à d'autres époques, avec le recul, très littéraire, très usé. Et elles avaient une sacrée nouveauté, une sacrée puissance. Si vous voulez, je pense qu'on oublie actuellement souvent que l'enfance est avant tout grave. Hein. Il y a une gravité de l'enfance, et ce qui est enfantin n'est pas infantile.
Oui, je suis d'accord, mais vous étiez quand même seul dans votre coin à penser ce genre d'idée. Vous êtes arrivé à vous construire en faisant des constats que ne font pas les enfants. Il faut habituellement beaucoup de recul et une certaine maturité pour arriver à analyser ce que nous vivons. Est-ce qu'on peut parler d'une certaine résilience déjà, puisque on sent à travers ce que vous avez écrit dans ce livre combien vous souffrez? Mais en fait, on sent aussi que vous vous en sortez, que vous, sans l'écrire, je veux m'en sortir, ce sont des mots que vous n'employez jamais, en réalité, vous trouvez toujours une solution, un trait d'humour pour dépasser ce qui est quand même difficile à vivre dans cette enfance.
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a cette fraternité nouvelle. Je commençais à connaître les êtres par les écrits. Et puis, très très important pour moi, très tôt, il y a eu la peinture et la sculpture. Je ne me souviens pas d'avoir commencé à peindre. Donc c'était déjà, ça prenait l'essentiel de mon temps. Je faisais des fresques sur les murs de ma chambre, je sculptais dans la cour de récréation, et ça, si vous voulez, j'avais pas de retour direct, mais ça me placait à part, parce qu'on voyait bien que j'étais habité par ça. Ça me plaçait à part, et je comprenais que cette distance était tout de même valorisante. Si vous voulez, j'avais mon mystère qui me permettait d'avoir une image de moi pas entièrement négative, alors que j'étais un cancre fini, que j'ai triplé ma septième pendant les 3 ans de pension et que le regard des adultes était extrême et des éducateurs était négatif, voire blessant. La création, et c'est pas un lieu commun de le dire, la création me maintenait à flot, me maintenait la tête hors de l'eau.
Alors, est-ce qu'on peut dire, je n'ai pas eu le temps de le dire dans l'introduction, que vous êtes le petit-neveu de Toulouse-Lautrec, et qu'évidemment, dans votre famille, on devait en parler, et que donc, votre approche de la peinture n'a choqué personne et était quelque chose dans vos gènes de naturel?
Alors, il faut être toujours extrêmement modeste par rapport au génie de Lautrec, etc. Enfin, si vous voulez, moi, j'ai pour principe de le servir et de ne pas m'en servir. Mais quand même,
vous alors, êtes son petit-neveu.
Voilà, alors, du côté de mes parents, il n'y avait pas du tout une préoccupation artistique. Mais j'avais ma grand-mère. Et ma grand-mère, qui était 2 fois la cousine germaine de Lautrec, qui l'avait bien connue, qui l'a photographiée, qui m'en parlait, elle m'en parlait du reste toujours les larmes aux yeux. Enfin, j'ai eu très vite une vision de Lautrec qui n'était pas la vision du tout du grand public.
Oui, et ce que vous venez de dire sur cette grand-mère qui parlait de Lautrec avec les larmes aux yeux, donc vous aviez quand même accès aux émotions par cette grand-mère. Si dans votre famille, il semble qu'il n'y avait pas d'émotion, jamais de démonstration, vous aviez une grand-mère qui exprimait de l'émotion. Donc,
elle exprimait de l'émotion, elle avait un regard surtout sur ce que je faisais. C'était la seule qui avait un regard sur ce que je faisais. Elle avait des enthousiasmes. Et ça comptait énormément. Dans les débuts de ma vie, j'ai eu aussi des passeuses, c'est-à-dire d'abord ma grand-mère, ensuite une des institutrices. Je suis un homme du 19e, alors j'ai eu des institutrices privées à la maison. Certaines étaient des catastrophes absolues, et il y en avait une qui était une passeuse, quelqu'un qui m'a éveillé aussi à beaucoup de choses.
Qui, si en fait, réalisait son rôle. En fait, c'est ça, une institutrice.
Et face au silence parental et familial, donc l'écho de son verbe était comme une effraction dans le silence de la maison de l'enfance. Elle avait bourlingué, elle avait été préceptrice chez des grands industriels un peu dans toute la France. Et là, c'est aussi une passeuse. Et puis après...
Est-ce qu'on peut dire que c'est votre première passeuse? Vous aviez quoi, 6 ou 7 ans?
J'avais 6 ou 7 ans. J'avais 6 ans.
Est-ce elle la première? Vous avez sa grand-mère
famille. Au départ, il y a ma grand-mère.
Et puis, cette institutrice.
Il y a l'institutrice, qui est du reste brusquement partie parce qu'elle ne s'est pas entendue avec mes parents. Et du jour au lendemain, elle a disparu.
Malheureusement.
Très traumatique. Après, ça a été très catastrophique. Et ensuite, au lycée, j'ai eu la chance d'avoir une professeure de dessin, on ne disait pas encore tout à fait d'art plastique, qui avait fait les Beaux-Arts de Paris, qui avait fait de la résistance pendant la guerre, et qui a été aussi quelqu'un de lumineux.
Hein. D'accord. Je voudrais en revenir à vous, Charles de Roda, et je voudrais parler de Jocelyne François, qui est une de vos passeuses aussi, et qui dit qu'il n'y a pas de hasard dans la lecture. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le premier livre qui vous a touché et comment vous êtes tombé dessus? Comment vous avez mis la main sur ce livre qui a commencé à vous éveiller à la lecture et à rechercher à travers les livres?
Oui, il y en a eu plusieurs, évidemment, mais...
Le premier, ce hasard, il n'y a pas de hasard dans la lecture. Comment avez-vous trouvé, comment quelqu'un vous l'a remis? Est-ce qu'il traînait quelque part ou...
Non, il y a eu d'abord simplement la collection Jean Bourret, par exemple, quand j'étais en pension, hein, qui me permettait de
rêver,
de rêver, de décoller. Il y avait le Roi Lépreux, il y avait toutes ces titres de Sidieux de Piste. Et puis après, très vite, il y a eu les premiers roman de Mauriac, Les Chemins de la Mer, par exemple.
Oui, mais là, déjà, il faut quand même avoir un certain âge. Vous n'avez plus 8 ans.
Oui, j'étais déjà un peu plus âgé. Vous savez, il y a
eu... Et puis, dans nos familles, c'était pas toujours très bien vu d'avoir Mauriac sur une table de chevet.
Non, mais... si vous voulez, j'étais tellement isolé qu'on ne regardait pas mes lectures.
Mais où aviez-vous trouvé le livre?
Oh, il y avait des bibliothèques quand même autour de moi. Et puis, vous savez, alors je suis d'un temps abyssal, mais c'était l'époque où on avait des... on faisait des... on appelait ça des dictées. Hein? Et une des qualités d'enseignement de cette époque-là, c'est que les dictées étaient prises dans des textes qui étaient toujours...
dans des auteurs, chez des auteurs.
Alors, je ne sais pas, au hasard comme ça, à brûle pour point, je me rappelle Henri Pourrat, Henri de Régnier, des gens comme ça, qui avaient déjà une qualité de texte. Et le...
Ce qui prouve que vous étiez vraiment un
enfant.
Oui,
les crimes me fascinaient. Oui.
Et très, très, très observateur et quand même très en avance, finalement. Malgré ce que vous racontez, l'école n'est pas toujours le lieu d'épanouissement des écrivains ni des auteurs. Nous le savons tous. Et visiblement, vous en êtes la preuve.
C'était la seule chose à laquelle je pouvais me raccrocher, hein, puisque mes notes étaient catastrophiques, mes appréciations étaient catastrophiques, mais moi, je pouvais vivre de leurs écrits. Personne ne savait que je vivais ça. Voilà, il a fallu que j'attende très très longtemps pour qu'il y ait un début de reconnaissance là-dessus.
Je vais vous poser une nouvelle question sur un de vos passeurs, Julien Green. Et dans votre livre, Les mots du regard, ce livre Julien a été édité en 2019, contre toute attente, puisqu'il ne devrait pas encore avoir paru. Vous dites que ce livre est un miracle et que beaucoup de lecteurs diront après ces lectures « Une autre vie s'est ajoutée à la mienne ». Pourquoi dire ça ? Parlez-nous de ce livre qui, visiblement,
ça,
n'est pas neutre.
C'est son éditeur qui dit ça, son dernier éditeur. parce que, si vous voulez, je pense qu'on a eu des sensibilités très, très proches avec le, enfin, l'enfant Julien Green dans ses... dans ses, les prémices de son journal, il y a un titre de Julien Green qui s'appelle « Partir avant le jour », hein, qui est un beau... Julien Green avait le génie des titres. Je pouvais là me reconnaître, et ce qui est très intéressant dans un auteur qui tient son journal toute sa vie, c'est qu'on peut l'accompagner. J'étais derrière et lui avait franchi les étapes 30 ans avant moi, mais j'avais toutes les étapes. Hein. La phrase qui dit que l'enfant ou l'enfance ne connaît rien des êtres, là j'avais un itinéraire tracé qui me permettait de connaître des êtres. C'était une espèce d'espionnage. J'étais planqué pour voir cette vie se dérouler avec toutes les interrogations de l'enfance, de la sexualité, etc., etc.
Enfin, les grands thèmes.
Les grands thèmes. Centraux, très, les thèmes vitaux, finalement, les thèmes essentiels.
Oui.
Et peut-être que c'est là, avec ces auteurs-là, que ça m'a gardé du repliement dont vous parliez tout à l'heure.
Oui, vous avez su l'éviter.
Vous
l'avez vu passer.
Je ne sais pas
vous.
Si je l'ai su, mais toutes ces circonstances ont fait que j'ai. Ça a évité un repliement, si vous voulez. Et puis, il y avait l'hédonisme de la lecture aussi. Enfin, c'était des moments qui m'arrachaient à moi-même.
Hein. L'hédonisme de la lecture, l'instinct de survie, la curiosité énorme, immense qui vous animait, il y avait quand même, vous avez eu beaucoup de chance.
Ça faisait partie du besoin de consolation. Il me consolait puisque j'étais plus seul. Voilà.
Mais quelquefois, on trouve que la lecture, c'est un peu sec, le papier, comme caresse, comme douceur. C'est bien aussi cérébralement, mais c'est insuffisant pour un enfant.
Je peux dire que quand même, j'ai eu une enfance extrêmement austère.
Et, oui, c'est ce qui transparaît dans tout ce qu'on lit sur vous, dans ce livre.
Et la douceur aussi, la chaleur venait aussi. J'ai eu une enfance campagnarde dans une nature magnifique et vierge.
Vous avez su piocher.
J'ai su piocher. Oui. J'étais dans une maison où d'un côté on apercevait les Pyrénées, et d'autre côté les monts d'Auvergne.
Enfin, oui, mais les enfants, quelquefois, ils disent qu'ils préfèrent les camarades et qu'on leur parle. Ce sont des réflexions parfois d'adultes, ça.
Mais on n'avait pas de camarades. On habitait à la campagne. Sociologiquement, il ne fallait pas fréquenter les gosses du village. Et tout ça...
Oui, mais quelquefois, dans ce type de famille dont vous venez, si on n'a pas les enfants du village qui sont parfois interdits de fréquentation, on a des cousins.
Hélas.
Et puisque les enfants ne sont pas faits pour vivre seuls, enfin, c'est...
Oui, mais alors, à cette époque-là, justement, peut-être que tous ces passeurs et tous ces auteurs... avait fait, je m'en rends pas compte sur le moment, je peux peut-être le supposer à rebours, ça avait fait un garçon un peu étrange quand même,
oui.
Et qui faisait, je pense que je faisais un peu peur aux autres.
Oui, c'est intéressant. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup à travers ce livre et à travers vos propos, c'est ce mot de passeur. Dans nos familles, on ne pensait pas avoir besoin de passeurs. Nos familles pensaient être elles-mêmes le passeur qu'il faut pour les enfants. Donc, aller chercher ailleurs, ça n'était pas très bien vu. On pensait un petit peu détenir la vérité. Et vous étiez quand même véritablement marginal.
Oui, j'étais certainement marginal. Et puis...
Parce que les auteurs que vous citez dans votre livre ne sont pas tous, ce sont de très très grands auteurs, mais ils ne sont pas tous bienvenue dans ce genre de famille.
Ah non, certains sentaient carrément
le souffre.
Il me permettait de savoir qu'autour de moi, on disait quelques stupidités retentissantes.
Et vous en preniez plaisir.
Et j'en prenais plaisir.
D'accord. Je vais passer à la question suivante. La vérité, écrivez-vous, ne souffre... Alors, il faut que je mette mes lunettes, excusez-moi. La vérité, écrivez-vous, ne souffre que le mode majeur et ne peut se diluer dans le commentaire. Pourquoi ? Je précise aux auditeurs et aux futurs lecteurs de votre livre que je prends des citations dans le livre. Pour moi, elles sont toutes de vous, puisque c'est votre livre. Et tout à l'heure, c'était l'éditeur qui disait ça pour le livre de Julien, mais c'est vous qui le citez dans votre livre, c'est vous l'auteur du livre.
Oui, je les assume, je les fais miennes, et au fond, j'ai été les chercher.
Oui, ne souffre pas le mode majeur, ne souffre que le mode majeur et ne peut se diluer dans le commentaire. Pourquoi ?
Parce que, justement, ce n'était pas de l'ordre du commentaire. Il y a un côté solaire.
Vous voulez dire, s'il y a un côté solaire ? C'est un mot qui est très large.
C'est très large, mais il y a... au fond... dans le côté solaire, je retiens la chaleur. C'est le monde dans lequel j'étais était épouvantablement froid.
Oui.
Et quand on tient une vérité, elle vous réchauffe. Ça paraît très abstrait comme ça, mais...
Donc c'est votre idéal, en fait. Vous vous étiez créé un idéal ou enfin quelque chose qui vous raccrochait, puisque vous dites que ce monde dans lequel vous viviez était terriblement triste et sombre, et vous parlez de côté solaire alors que vous êtes un enfant qui vit des choses terriblement tristes, reconnaissons-le, et beaucoup d'enfants n'en se seraient pas aussi bien sortis.
Cet enfant est laissé à lui-même, mais en même temps, il vit dans un endroit qui est beau, dans une maison qui est belle, et... il a du temps à lui. Si vous voulez, quand...
Il a du temps à lui, et il sait en faire quelque chose. Mais combien d'enfants ne savent que faire, ou même combien d'adultes ne savent que faire du temps qu'il leur est laissé ?
Parce que ils n'ont pas l'habitude d'être laissés à eux-mêmes. Enfin, moi, je pense qu'il y a aussi quelque chose de très bénéfique d'être laissé au silence et d'être laissé à soi-même. Ça peut être très dangereux, hein, aussi, je ne me leurre pas là-dessus.
Vous êtes un philosophe optimiste et positif. C'est vous qui êtes solaire, finalement.
Le trajet... a permis de me constituer, mais bon, peut-être aussi que à rebours, j'oublie un quotidien qui était pesant, mais très très vite, si je pense que la découverte de l'altérité et par les auteurs, j'ai découvert l'altérité. Était un garde-fou contre l'apitoiement sur moi-même. Et autour de moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais autour de moi, je voyais des êtres qui très souvent sombraient dans l'apitoiement sur soi-même, et je voyais bien que c'était une impasse.
Oui, ça vous a fait réagir.
Alors tout ça, c'est Harbour, je le dis Harbour, mais je le sentais. On oublie aussi qu'un enfant est un terrible observateur des adultes autour de lui et qu'il voit bien les failles et qu'il voit bien que ça ne marche pas.
Pardonnez-moi, je vais oui. dire, je ne suis pas d'accord, même si j'entends tout à fait ce que vous dites, je pense que tous les enfants ne peuvent pas réagir comme vous.
Je
crois que vous montriez déjà des qualités pas très commune.
Peut-être que je me suis raccroché à ça parce que il n'y avait aucune reconnaissance.
Oui, je l'ai très bien senti.
Il n'y avait aucune reconnaissance et j'étais N'oubliez pas, j'étais le cancre. Hein,
j'ai, oui, mais enfin, ça arrive dans toutes les écoles. Il en faut dans toutes les classes, des cancres. C'est quand même banal aussi, pardon.
Mais alors, c'est un péché d'orgueil, je n'étais pas un cancre banal.
Bon, je vais passer à la question suivante. Vous dénoncez le silence absolu dans les années 60 sur les choses de la sexualité, tant du côté religieux que du côté laïque. Voyez-vous une évolution aujourd'hui ?
Alors, c'est... comment dire ça ? C'est... d'un excès l'autre, sûrement. Mais... comment dire ? Je vais faire appel à Baldwin, qui dit que... il a toujours su que les choses de l'amour tenaient de la sacralité.
C'est très beau de dire ça.
Et ça, j'ai eu ce don-là,
oui.
Et ce don des auteurs, j'ai eu ce don-là, et je crois que ce discours-là, cette chose simple et tellement fondatrice, n'est pas donnée de nos jours, alors que la sexualité est partout, et c'est peut-être bien. Enfin, on est dans une époque post-freudienne, et voilà, le regard a changé. Mais je crois qu'elle voie plus royale vers le sacré que la sexualité. Et ça, j'ai eu cette intuition-là très, très tôt, par les auteurs.
Hein, d'accord. Oui. Alors, je précise que évidemment James Baldwin est un des passeurs de Charles de Rodin. Je voudrais vous faire une petite lecture justement de ce James Baldwin, prise dans Les mots du regard, 17 portraits d'auteurs écrits par Charles Rodin, parce que ces résumés, ces citations qui sont quand même un petit peu longues, montrent l'état d'esprit de notre auteur. Puisqu'il, sur la vision qu'il avait du monde quand il a écrit ce livre, donc ce réalisme qu'il a sur on voit le beau, mais en même temps il y a des choses terribles qui se passent sur notre planète. Alors je vais vous faire une petite, quelques lectures de James Baldwin, extrait de La chambre de Giovanni. Je suppose que c'est pour cela que je lui ai demandé de m'épouser, pour me procurer une amarre. Et c'est pour cela qu'en Espagne, elle a décidé qu'elle voulait m'épouser. Mais on ne peut malheureusement pas inventer nos amarres. Nos amants, ni nos amis, pas plus qu'on ne peut inventer nos parents. La vie nous les donne et nous les prend. Et la grande difficulté est de dire oui à la vie. Alors je trouve qu'il y a dans ces quelques lignes déjà un résumé sur la philosophie, l'état d'esprit donc de Charles de Rodin. Je trouve que cet extrait qu'il a choisi dans son livre est absolument remarquable. Et je vais vous en lire un second sur la place de la femme en fait. Alors cet extrait est tiré de La conversation, toujours de James Baldwin, qui est un très grand auteur américain. C'est ainsi que sa mère noire avait vécu. Et qu'elle était morte. Dans cette plantation où elle avait grandi, elle faisait partie des noirs des champs, car elle était très grande et très costaude. Au bout de quelque temps, elle s'était mariée et avait élevé des enfants qui lui avaient été tous enlevés, un par la maladie, deux autres par une vente aux enchères, et un quatrième, qu'on ne lui avait pas permis de garder, avait été élevé dans la maison du maître. C'est sûr qu'en lisant ces passages, on se rend compte que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, excusez-moi pour ce petit jeu de mots, mais nous en sommes loin, et c'est en quelques lignes raconter des choses terribles qui se passent dans le monde. Je vais passer à la question suivante. Vous dites avoir été pétri et modifié par vos passeurs. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Quelles sont les premières modifications que vous avez ressenties en vous? La première modification avec la... Si vous pouvez la citer, si vous l'avez encore en mémoire.
Alors, une question un peu abstraite, mais à brûle pour point, le don principal des passeurs, c'est la confiance en moi. C'est faire de moi un interlocuteur possible. Hein, c'est-à-dire, au fond, m'inclure dans la communauté, dans une communauté. Vous savez, je crois que les êtres sont indispensables à notre voyage.
Je le crois aussi, mais ce qu'il y a de formidable, c'est que si vous voulez vous parler de la souffrance et de ce cancre que vous étiez, et vous aviez à l'esprit que vous pouviez gagner une confiance en vous, si vous voulez, c'est ça qui est extraordinaire, c'est ce joint entre le cancre qui était renfermé sur lui-même, et en fait vous allez chercher pour gagner de la confiance en vous, c'est ça que je trouve magnifique.
J'ai toujours pensé que dans l'art, l'art était une quête existentielle, et je le différencie pas d'une quête existentielle. Et le décoratif, le divertissement était quelque chose qui très tôt ne faisait pas partie de mon monde. J'ai très bien vu très tôt la gravité de l'art et le secours que je pouvais en tirer. Alors, mutatis mutandis, c'est très modestement, mais le destin de l'autre aigle, de l'oncle Henri, comme nous disons dans la famille, était un exemple. Il n'est pas question pour lui de confondre l'art avec, si vous voulez, un soulagement de ses difficultés d'infirme et de du séducteur défiguré. Hein. Mais il savait que c'était une voie qui pouvait être à la hauteur de son drame, qui était égal et qui est il pouvait creuser à l'infini, au fond.
À l'infini.
Oui, au fond, l'art n'est pas un chemin borné. Ah, et ça, je crois que je l'ai su très tôt. Et j'avais l'exemple de ma grand-mère aussi, hein, qui peignait, qui a fait une œuvre photographique énorme. Elle a creusé. Ma grand-mère avait perdu Louis à 18 ans, et elle était complètement isolée.
Elle aussi a su
trouver un moyen.
Oui, voilà. Donc vous, finalement.
Et je l'avais sous les yeux.
Handicapée, puisqu'elle elle ne pouvait plus.
Radicalement.
Oui. Et c'était un très bon exemple. Donc ça a été une tendresse près de vous et en même temps un exemple.
Oui, et sans les mots.
Et sans les mots.
Sans les mots, et d'autant plus prégnants.
Oui. Je voudrais encore vous poser quelques questions. Votre éditeur, Gérard Honigsblum, fait un parallèle de vos tableaux, puisque le livre est illustré des portraits peints par Charles de Rodin qui sont magnifiques. Donc votre éditeur fait un parallèle de vos tableaux qui représentent vos passeurs. Il compare ça à l'orthodoxie russe, parce qu'il dit qu'on ne dessine pas une icône, on l'écrit après l'avoir lu, après l'avoir compris, après en avoir compris le message. Donc je trouve que cette remarque est magnifique, et prouvant que vous n'avez pas peint des tableaux comme ça, vous étiez déjà imprégné de l'œuvre. Acceptez-vous ce parallèle avec la remarque de l'orthodoxie russe et la peinture des icônes?
Alors,
donc, votre peinture.
Il y a des comparaisons qui sont quelquefois un peu écrasantes. Et bon, ça me rappelle à une modestie, mais ça s'inscrit dans cette vision d'un art qui n'est ni décoratif ni divertissement. Et alors, j'ai l'impression de me répéter, mais ma rencontre avec ces auteurs interférait aussi dans les portraits que j'ai fait d'eux. Si vous voulez, je me suis rendu compte, avec les expositions que j'ai faites de ces portraits à propos de la sortie du livre, que le public, au fond, est assez demandeur d'une parole sur les auteurs, et que tout lecteur, au sortir d'une œuvre un peu forte, est un peu frustré de ne pas pouvoir la partager. Et au fond, moi, je me sentais un peu dans cet état d'esprit, et convoquer la présence dans les portraits, parce que c'est quand même bien de ça qu'il s'agit, me permettait de les retenir un peu auprès de moi et de créer une complicité des regards, par exemple.
Oui, je trouve que vous donnez une troisième vie à ces auteurs. Après les avoir lus, après les avoir digérés, vous faites leur portrait, et Dieu sait que ces portraits m'ont ému quand j'ai eu la chance de les voir.
Si vous voulez, on oublie toujours le corps, finalement. Et
malheureusement.
L'incarnation, le mystère de la transfiguration a toujours lieu, mais il est tellement banalisé qu'on ne le voit plus.
Alors, je crois que nous allons terminer par une dernière question. Je fais encore référence à une de vos passeuses, Marguerite Duras, une auteure quand même bien connue qui vous a aidé à vous construire. Elle écrit dans L'Amant : J'ai eu la chance d'avoir cette mère. Ce qui vous permet d'écrire, vous, Charles de Roda, que de ces douleurs de l'enfance sentiront l'œuvre de Marguerite Duras. Pour vous, les douleurs de l'enfance sont-elles nécessaires à l'acte de création ?
Alors, je crois qu'il n'y a surtout pas de règle du jeu, hein, et que si on érige en système, on va à la catastrophe.
Oui, hein, oui,
mais je crois que si on survit à ce recul, il est nourricier. Et puis, j'étais peintre, mais je crois qu'il y a un peu, chez moi, un peu du romancier qui cherche des pépites partout.
Ah, d'accord. Alors, je crois qu'il nous reste encore un petit peu de temps. Vous écrivez, après avoir tué le père, la mère, il faudrait aussi tuer l'époque. Que voulez-vous dire ?
Oui, ça, je pense que c'est vrai. Je pense que, si vous voulez, par exemple, je veux prendre un exemple concret. J'ai débarqué aux Beaux-Arts de Paris en 68, venant de chez les bons pères de ma petite ville, chef-lieu de département du sud du Massif central, et le choc a été trop violent. Je venais là dans l'espoir d'apprendre, d'advenir à moi-même, et la question posée à cette époque-là, c'était le pourquoi de l'art. Et moi, j'avais même pas encore les prémices d'une formation. Donc, il y a quelquefois l'époque et ses lieux communs, peut-être un massacre et quelque chose. La plus dangereuse, banale et un peu navrante et prosaïque que la mode, que l'époque immédiate. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas être son propre contemporain, mais la contemporanéité définie et assénée est aussi dangereuse que l'autorité paternel, maternel, grand-paternel, etc.
Oui, enfin, je comprends très bien.
C'est aussi une forme de pouvoir. C'est toujours une forme de pouvoir.
C'est certainement un pouvoir.
Voilà. Oui.
Je voudrais, pour conclure cette émission, faire entendre aux auditeurs une musique qui vous plaît énormément, Asturias Albéniz. Mais avant, je voudrais rappeler que Charles de Roda habite à Saint-Ursis, que vous pouvez le rencontrer en allant chez lui. Vous pourrez voir ses peintures magnifiques, trouver l'auteur qui pourra vous dédicacer le livre. Saint-Ursis est un ravissant petit village qui est dans le Tarn. Qu'est-ce que je voulais encore ajouter ? Je vous cite quand même quelques noms de ces grands passeurs. Jocelyne François, qui n'est pas la plus connue, qui est la seule à ne pas être à l'Académie française ou avoir eu un prix Nobel.
Qui était une amie et c'est la seule qui est posée pour son portrait.
Voilà.
Elle a été prix Femina en 85.
Voilà. Donc, c'est quand même une femme qui a marqué Charles de Roda. Je citerai encore Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar, Thomas Mann, Henri Hess, Federico Garcia Lorca, Miguel de Unamuno, Boris Pasternak, puisque Charles de Roda a aussi des racines avec la Russie, William Faulkner, James Baldwin, dont nous avons parlé pendant l'émission, Paul Valéry, Jean Genet, Samuel Beckett, François Mauriac, bien sûr. Et maintenant, je laisse la place à la musique.